Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-champ avec François. Salut François.
Salut Moussa, bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui on va parler de mensonges. Générique.
Dix-septième film des frères Cohen. Hail Caesar ou Ave César plutôt, on va le faire en français, met en scène le personnage d'Eddie Mannix. Déjà rien que le nom, c'est une belle promesse. Incarné par Josh Brolin et qui est donc un fixeur dans le Hollywood des années 50. Alors, un fixeur, moi j'aime bien ça. Alors, on avait déjà vu ça dans Contre-champ, notamment dans le film Wag the Dog. Hein. Un fixeur, c'est l'homme à tout faire, l'exécuteur des basses œuvres, celui qui fait le sale boulot pour que la machine tourne. Par ailleurs, la période du film est importante. On se situe dans le début des années 50, on est encore dans le Golden Age d'Hollywood. C'est une période où la télévision s'apprête à fameusement menacer l'hégémonie du cinéma, qui tente de lutter en versant dans la surabondance et dans l'excès, avec des genres terriblement impressionnants et coûteux, comme des comédies musicales, des ballets aquatiques, des westerns, des grandes fresques épiques, etc. Et tout ça, on va le retrouver dans le film. C'est donc dans ce contexte qu'on va suivre quelques jours de la vie de ce bon vieil Eddie Mannix, qui doit user de toute son ingéniosité et sa roublardise pour s'assurer que le studio, ici Capitol Pictures, mais qui renvoie clairement à des figures historiques comme la MGM ou la Paramount, produise ses différents projets en temps et en heure, et ce malgré les inévitables problèmes de production, qui sont ici haut en couleur, et qui culminent avec le kidnapping de la grande star du studio, Baird Whitlock, incarné par George Clooney, enlevé par un mystérieux groupe de scénaristes communistes alors qu'il était sur le point de terminer le tournage d'une immense fresque pseudo-historique racontant la conversion d'un centurion romain par le Christ en personne. Alors les affaires d'Eddie Mannix ne s'arrangent guère car en parallèle de ces incidents extérieurs, il est également plongé en pleine période de doute puisqu'il est démarché par un grand groupe industriel qui lui propose un pont d'or pour quitter le petit business hollywoodien et rejoindre un business autrement plus sérieux et lucratif, ce qui a le don de bousculer son étonnante foi chrétienne. Alors, ultra référencé, cette pure comédie burlesque pour initiés et amateurs de cette période très spécifique d'Hollywood, t'a-t-elle convaincu, mon bon Moussa ?
Je ne sais pas. Je ne sais sincèrement pas. Ça fait des heures maintenant que j'ai vu le film, j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir. En plus, je l'ai vu dans de très bonnes conditions, donc j'ai pas d'excuses à ce niveau-là, mais je ne sais pas quoi penser de ce film.
Est-ce qu'il t'a fait rire ?
Alors, il y a des moments qui m'ont fait rire, il y a même des moments qui ont été très drôles, mais en fait, le problème, c'est que quand j'ai regardé le film, déjà dès le début, je me posais la question, c'est quoi ce film ? Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un film absolument burlesque, je pense que tu as utilisé le mot,
ouais.
mais c'est vraiment ça, on est dans le burlesque, on est dans l'absurde. Est-ce que c'est un film sur le cinéma ? Est-ce que c'est sur les coulisses du cinéma, sur les dessous de la production ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? On n'est pas très sûr. Au début, vraiment, on part de nulle part. Et le pire, en plus, c'est que cette fois-ci, hier, je pense, je me suis laissé regarder une bande-annonce à laquelle je n'avais donc évidemment rien compris, si ce n'est que le personnage de George Clooney allait se faire enlever. Mais donc voilà, je démarre le film, je ne sais pas ce que c'est, je me pose ces premières questions. Ensuite, est-ce que c'est un film qui est son propre pastiche, une sorte de filmception, je reviendrai sur cette notion un peu après, où tout est trop beau, trop lisse. C'est-à-dire que même les séquences qui sont censées dépeindre le monde réel ou toucher le spectateur par sa beauté ou sa maîtrise sont factices, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit les décors dans le film, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais tout est très net,
oui, bien sûr.
Tout est très beau, c'est frappant. J'ai quelques exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. La scène de la piscine, notamment, hein, donc avec Scarlett Johansson, où on a justement une séquence filmée, alors certes pour les besoins d'un faux film dans le film, mais qui est quand même réalisée de sorte aussi à toucher le spectateur que nous sommes. Et c'est vraiment trop beau. Et j'insiste sur le trop. Alors, je n'utilise pas ici dans sa connotation positive et flatteuse, mais c'est vraiment trop beau, on le voit. On a également cette scène où on se rend compte que Whitlock, donc le personnage incarné par George Clooney, a été enlevé, et la maison dans laquelle il se trouve, on voit plein de petites références qui nous montrent tout d'abord que cette maison est complètement fausse. On voit qu'on est sur un set de cinéma, ça se voit, et on a en plus des petites allusions qui sont un petit peu rigolotes, notamment une référence au film de Mafieux, où on voit des gens cuisiner, comme moi ça me fait penser vraiment à, c'est Polly qui s'appelle dans Goodfellas, ouais. quand je vois un vieux monsieur cuisiner méticuleusement comme ça, c'est tu l'as dit, c'est extrêmement référentiel et parfois des références qui fusent de partout et qui nous montrent qu'on est dans un film, donc dans quelque chose de faux. Même les poissons qui sont en fond dans un aquarium, dans un restaurant visiblement chinois, on voit que c'est du fake. c'est incroyable. Bref, je continue à un petit peu le thought process qui a été le mien pendant le film. Est-ce que c'est une comédie satirique, hein, parce qu'on a cette séquence absolument formidable où le personnage de Hobby Doyle, incarné par Alden Ehrenreich, qui est donc un acteur qui est connu pour des westerns dans lesquels il chante et qui est donc pas un acteur forcément verbeux, se retrouve, suite au bon vouloir de la production, dans un film où il doit être un petit peu plus éloquent, et il est face au personnage de Lawrence Lawrence, incarné majestueusement par Ralph Fiennes, hein, dont on a déjà parlé dans ce podcast.
Il est extraordinaire. Il joue, pour un peu de contexte, il donne effectivement... il joue un réalisateur d'origine européenne qui tourne des grands films intellectuels, dramatiques...
Mais oui, c'est ça. Donc, on est face à quelque chose qui relève plus du cinéma d'auteur, même si pour l'époque, le terme ne convient peut-être pas encore.
Disons théâtral, donc très intellectuel.
Exactement.
Et il est obligé de se fader un acteur, effectivement, que le studio lui remet dans les pattes. Voilà, qui est incapable de faire une phrase.
Il ne sait pas déclamer quoi que ce soit. C'est-à-dire que les liaisons sont foireuses, l'accent est incompréhensible. Et il y a une scène absolument dingue entre eux où il lui fait répéter une simple réplique. Au moins une quinzaine de fois, il en est incapable. Et tu sais, ça nous fait rire à l'usure, quoi. Tellement c'est drôle. Et donc voilà, est-ce que c'est une comédie satirique sur le cinéma? On a d'ailleurs même un narrateur dans le film. Alors ça, personnellement, je pense que c'est superflu. Ce narrateur, d'ailleurs, j'oublie en permanence son existence jusqu'au moment où il me la rappelle et où je me dis finalement, il est peut-être pas si indispensable que ça au film. Et puis vient la séquence, je pense, où on aborde quelque chose d'un petit peu plus important, à savoir cette réunion d'un groupe de travail, comme ils se font appeler, qui sont en fait des petits bras du cinéma et des communistes qui veulent se réapproprier les moyens de production, d'ailleurs ils le disent tel quel, parce qu'ils ont découvert le capital de Marx, grâce à un professeur qui est un peu leur gourou. Et donc ils kidnappent Baird Whitlock pour demander une rançon, et on se rend compte plus tard qu'il y a également un autre objectif dans le chef de ce groupe. Alors, hormis toute la blague sur le communisme, parce que là aussi c'est extrêmement gros, cette séquence sur le communisme, alors je vais me permettre de spoiler parce que c'est pas vraiment un film à mystère, mais qui se termine avec une séquence un petit peu incroyable où on voit Dolph Lundgren qu'il faut réussir à reconnaître, hein, mais je l'ai reconnu, mais il est quand même un peu dans l'obscurité, on saisit pas tout de suite que c'est lui.
En capitaine de sous-marin soviétique.
Tout à fait, qui a l'air aussi absolument fake. Et donc, hormis toute cette plaisanterie sur le communisme, je pense, mais alors ça c'est vraiment une interprétation personnelle, qu'il y a un propos dans ce film, pourtant produit par Universal Pictures, un propos sur la manière dont le cinéma peut nous mentir. En fait, tout simplement, la manière dont le cinéma peut nous faire croire, grâce à un film qui prône l'égalité, l'équité, la communion du peuple face à l'élite, qu'un film en fait peut nous toucher et nous faire croire que ces choses sont possibles. Hein. Ça se termine avec notamment une séquence où George Clooney, donc son personnage, voit la lumière et le joue tellement bien parce que lui a été convaincu par le capital de Marx qu'il a découvert dans ce film. Eh bien, il arrive à toucher toutes les personnes qui sont sur le set, sur le plateau, et qui sont des anonymes, un petit peu comme ces petits bras communistes qui ont kidnappé son personnage quelques instants plus tôt dans le film, avant que le réalisateur ne dise couper et nous rappelle qu'on est dans un film produit en l'occurrence par Capitol, comme ce film-ci est produit par Universal Pictures. Je pense donc qu'on a là un film qui est très très réflexif et qui abuse d'un logiciel très référentiel pour nous le montrer. On a donc affaire à un film qui est extrêmement réflexif, qui recourt énormément aux références et qui d'ailleurs rit de lui-même. J'avais parlé de Filmception, mais en fait Dolph Lundgren en communiste, est-ce que c'est un hasard, lui qui est notamment connu pour avoir joué un personnage communiste dans Rocky IV, est-ce que c'est surprenant que tous les acteurs qui incarnent ces petits bras communistes soient quasiment tous des acteurs de série B qu'on a déjà vu quelque part, mais on ne sait plus exactement dans quel film. Est-ce que c'est surprenant que Robbie Doyle, donc ce héros de film d'action, soit celui finalement qui va sauver George Clooney? Il y a plein d'autres exemples comme ça que je pourrais citer, mais ce sont ceux que j'ai notés. Et donc voilà, je pense qu'il y a un petit propos là dans ce film sur la manière dont le cinéma est capable de mentir aux gens, en plus d'être un film qui est extrêmement auto-référentiel. Mais je n'ai toujours pas de réponse à ma question, à savoir c'est quoi ce film. Donc voilà, c'est un peu tout ça à la fois. Avec plein de petites histoires, j'ai même pas tout élaboré, hein. J'ai pas parlé du personnage incarné par Channing Tatum, dont j'aime toujours les caméos, ni de celui incarné par Scarlett Johansson. Il y a tellement de subplots en français.
De sous-intrigues.
Oui, merci, de sous-intrigues que le film se perd. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que je pense de ce film. Je pense pas qu'il m'en restera grand chose. Je pense que, enfin, je dis pas que j'ai passé un mauvais moment dessus, c'était chouette, c'était assez rigolo, mais j'étais constamment perdu et l'impression de voir plein de petites trames comme ça qui vont dans tous les sens. Tu as parlé de théâtre tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, on dirait une pièce de théâtre avec différents actes, avec plein de personnages et presque un espèce de vaudeville
ou un film à sketch, modernisé. C'est ça que tu veux dire?
Pardon?
Ou un film à sketch, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est ça, c'est... Enfin, voilà, Je sais pas, je peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais je ne peux pas dire non plus que j'ai aimé, je suis assez sans avis. J'ai vu le film, c'était rigolo, ce sera pas mon préféré des frères Cohen, mais voilà. Tiens, c'est bizarre en plus parce que finalement, ils ont fait justement un film sur Netflix de Ballad of...
Ouais, Buster Scruggs.
Merci. Oui, il y a quelque chose un peu de similaire, même si là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus détaché. Ouais. C'est un peu, là, le récit est quand même plus cohérent. Mais oui, en termes de spectateurs qui se retrouvent dans une œuvre un peu hachée comme ça, il y a un petit peu un sentiment similaire, même si, bon, c'est vrai qu'ici, on est dans un film quand même qui a sa cohérence, qui a son personnage principal, qui a ses objectifs, qui est courtisé par une entreprise militaire. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est parce que finalement, ça me touche tellement peu. Je vois pourquoi il aboutit à ce résultat à la fin, pourquoi est-ce qu'il décide finalement de rester ce fixeur dans le monde du cinéma et pourquoi il y prend du plaisir, mais... Voilà, je n'ai pas forcément ressenti d'attachement pour ce personnage et pour ce qu'il vit, et je ne suis même pas sûr que ce soit un élément tellement important dans le film, à moins que moi je sois passé à côté. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire, j'ai déjà dit plus que ce que je pensais que je dirais, voilà, et j'arrête avec mes phrases un peu alambiquées. Je t'en prie, reprends la parole et dis-moi ce que toi tu en as pensé.
Ah ben moi j'adore évidemment, je suis très très client. Alors évidemment, il y a une partie effectivement de film d'initié, hein. C'est vraiment pour, voilà, bien sûr en ayant une connaissance de cette période du cinéma et du cinéma en général, on apprécie d'autant plus ce qui nous est donné à voir par les frères Cohen, mais je crois qu'il y a quand même un vrai sens derrière. Mais je vais commencer pour une fois, puisque j'ai tendance à beaucoup parler du sens et de ce que racontent les films, on va commencer quand même par le style et la mise en scène. Parce que tu l'as dit, le film nous fait passer par différents tableaux, puisqu'en fait, au travers de ces quelques jours de la vie d'Eddie Mannix, ben en fait, on va voir à peu près tout ce qui compose l'industrie hollywoodienne de l'époque, et en fait, les différents genres de films qui sont en train d'être tournés au moment où cette aventure se passe, et qui lui posent chacun un problème et des problèmes différents, servent à montrer l'époque. Alors il y a vraiment... un aspect de pur plaisir de la part des Cohen qui ont simplement envie de parler de cette période et de la mettre en scène. Mais il y a déjà, dans un premier temps, un formidable effort de reconstitution. tu as parlé des donc, les différentes pièces et les différentes représentations des genres de l'époque. Il faut savoir que les Coen, ce sont des gens qui explorent toujours dans leurs films la mythologie et les genres. Ils les travaillent, les genres, systématiquement. Tu as parlé de la balade de Buster Scruggs, mais on peut parler de No Country for Old Men. C'est des types qui vont s'intéresser aux films noirs. Enfin, ils vont constamment investir les genres. Et bien ici, en ancrant leur histoire dans une époque très spécifique, hein, le tout début des années 50, ça leur permet même de passer à travers différents genres. Et je pense que là, c'est simplement au-delà de la dimension de pastiche, il y a vraiment un hommage.
Oui, bien sûr, et un amour. Clairement, voilà. Il y a un amour pour cette période-là. C'est clairement visible.
Ouais,
et c'est malin, c'est malin. C'est pour ça aussi que je te dis qu'on voit le côté factice de tout. Mais je pense que c'est voulu de leur part.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est très intelligent.
C'est voulu. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Juste pour parler de... Il y a une remarque que tu as faite qui m'a fait tiquer. Tu as parlé du fait que c'était presque trop beau, et pas nécessairement dans le bon sens du terme, pour notamment la séquence du ballet aquatique avec Scarlett Johansson. Eh bien, il faut savoir que, en réalité, ce qui est assez passionnant dans le film, c'est que, puisque les Coen vont traverser différents genres, en fait, ils vont essayer de techniquement... représenter la manière dont ces genres étaient filmés et chorégraphiés et mis en scène à l'époque. Et donc ils vont essayer d'utiliser des techniques ou de retrouver des techniques d'époque pour le faire. Et en fait, le ballet aquatique, tu dis que c'est trop beau, mais en fait, c'est extraordinaire parce que c'est un art et un genre qui a complètement disparu aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, c'était vraiment un genre très apprécié et qui rapportait beaucoup, comme le personnage d'Eddie Mannix se dit dans le film, et notamment à travers des actrices comme pouvait l'être Esther Williams. Esther Williams, c'est l'actrice qui a joué dans notamment un film qui s'appelle Million Dollar Mermaid. C'était ce genre de grand ballet aquatique avec des figures quasiment kaléidoscopiques qui étaient filmées dans des bassins, dans des immenses bassins en studio avec énormément de figurants. C'était de la natation synchronisée, mais avec des effets de fumée, de lumière, de couleurs, vraiment des choses extrêmement presque parfois abstraites, mais dont on a complètement perdu l'habitude et on ne voit plus jamais ça aujourd'hui. Et pourtant...
Si tu me permets juste d'intervenir là, quand je dis que c'est trop beau, c'est pas forcément par rapport au fait qu'esthétiquement ça ne me plaît pas ou que c'est pas joli, au contraire. Quand je dis que c'est trop beau, c'est parce qu'on voit la volonté des réalisateurs. On voit le côté performatif, en fait.
Bien sûr.
Et c'est ça qui m'a fait tiquer. Mais clairement, c'est une séquence qui est très jolie.
Mais c'est voulu, en fait.
J'étais complètement immergé, sans mauvais jeu de mots.
Oh, elle est belle, celle-là. Mais en fait, c'est totalement voulu, puisque c'était le principe de ces films d'époque. Il y avait cette dimension performative. On allait au cinéma dans les années 50 pour en prendre plein la vue. Et donc, ces ballets aquatiques servaient à ça. C'était vraiment donner l'impression d'un bigger than life. Et donc... et c'était notamment tous des films qui étaient chorégraphiés par Busby Berkeley. C'est vraiment un metteur en scène et un chorégraphe qui s'est occupé de la plupart de ses productions, notamment de la MGM. Et c'était le but, justement. L'aspect performatif était au cœur de ces projets. Et c'est pour ça que les Coen nous le donnent à voir ici.
Je crois que j'arrive pas à me faire comprendre. C'est, encore une fois, par performatif, je veux dire par le fait que les réalisateurs nous disent « Regardez, on fait un film sur le cinéma. »
Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Dire. Oui, je comprends tout à fait, mais je crois que c'est totalement voulu. Mais donc voilà, sur cet aspect de représentation des genres. Alors, autre chose que tu as évoqué aussi, tu dis on voit du fake. Ben oui, effectivement, puisque parce qu'ils tentent, en traversant les différents genres, de reproduire les éléments d'époque, eh bien forcément, ils utilisent des représentations qui étaient faites à l'époque. Et donc forcément, quand il y a ces scènes dans un restaurant chinois avec des faux poissons, pourquoi ce sont des faux poissons, et qu'on voit que ce sont des faux poissons, mais parce que c'est comme ça qu'on représentait ce type de scène
à
l'époque.
Bien sûr.
Il y a des scènes dans des voitures où tu vois effectivement, on a tous ces images en tête, avec une espèce de faux décor qui défile derrière, les Coen vont reprendre exactement cette même dialectique et cette même manière de faire. C'est totalement assumé, puisqu'on rend hommage au style de l'époque. Et donc on est dans le pastiche, bien sûr, mais il y a aussi du sens qui se dégage de ça. Mais ça, j'y reviens dans un instant. Peut-être quand même pour expliquer que les Coen ont dit eux-mêmes que sur certains genres, comme notamment ce ballet aquatique, en fait, on a perdu, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus du tout ça, on a perdu les techniques et que donc, en fait, ce savoir-faire n'existe plus. Au moment où ils ont tenté de reproduire ces scènes-là, en fait, la connaissance de la fabrication de ce type de cinéma n'existait plus. Et donc ils ont dû faire une sorte de rétro-engineering pour recomposer la manière dont les réalisateurs mettaient en scène et filmaient littéralement les scènes de l'époque. Donc il y a une vraie performance quand même technique de la part des Coen, qui par ailleurs filment toujours en 35 mm, hein, ça fait partie des rares qui résistent au passage au tout numérique. Donc il y a vraiment une performance technique qui, en plus du pastiche, qui n'est pas juste une évocation un peu facile, il y a vraiment un travail de cinéphile, mais de metteur en scène, qui est vraiment tout à fait étonnant. Alors, au-delà du ballet aquatique, il y a vraiment des purs moments de bravoure. Tu as parlé notamment de Channing Tatum qui fait un numéro musical de claquette à la Gene Kelly, qui est absolument extraordinaire. Il faut savoir que Tatum s'est entraîné pendant 3 mois pour le rôle, donc c'est une vraie performance. Et ça montre aussi à quel point ces films d'époque, les films notamment avec Gene Kelly, étaient des performances artistiques et physiques absolument hors du commun. C'est quelque chose qu'on regarde avec un petit peu de dédain aujourd'hui, mais il faut se rendre compte de la performance que ça représentait à l'époque. Et Channing Tatum le fait très bien ici, avec en plus, il y a une forte dimension, comment dire, crypto-gay dans le numéro No Dames qu'il pratique, puisqu'en fait ce sont des marins qui se lamentent de leur, parce que c'est leur dernier soir sur Terre avant qu'ils partent en mer. Et c'est quoi le discours? C'est on va se retrouver 3 mois tous ensemble entre mecs en mer, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ben, évidemment, il mime certains passages assez explicites, ce qui a le don de mettre en colère le tenancier du bar dans lequel il danse. Mais donc voilà, tout ça est assez, assez amusant, mais il y a vraiment ces moments de bravoure. T'as parlé de la scène dans ce genre de film plus intello avec le formidable Ralph Fiennes qui joue Lawrence Lawrence. Il y a des trouvailles de dialogue absolument délicieuses, parce que ça passera moins bien en français, mais il dit lui-même de son film, c'est une production Lawrence Lawrence Presents. Et donc en anglais, enfin voilà, il y a une espèce de répétition, comme ça, d'allitération qui est tout à fait délicieuse. Et les dialogues, tu l'as dit, avec Alden Ehrenreich, c'est vraiment tout à fait épatant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici avec Ave César? C'est en fait, et je ne peux pas m'empêcher dans chaque critique d'évoquer le fantastique Damien Chazelle, c'est une petite piqûre de rappel, cher Moussa, mais on est en fait dans une sorte de Babylone.
Non, mais si,
sauf qu'on est dans un Babylone, mais édulcoré, on est vraiment dans quelque chose d'assez potache, innocent du domaine du pastiche, dans une autre période, parce que Babylone se place plutôt dans le cinéma des années 20-30, ici on est dans le cinéma des années 50, mais on est dans le même genre de représentation d'un certain cinéma et de ce qui se passait à l'époque. Alors pourquoi je dis édulcoré? C'est là qu'on va passer au sens, évidemment. Mais parce que il y a une dualité dans le film, mais qui reste toujours d'un point de vue assez détaché et assez, avec un œil assez amusé sur la question. On n'entre jamais dans le fond peut-être sordide des choses comme peut le faire Babylone. Qui est Eddie Mannix? C'est un personnage de fixeur, on l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'ultra concret, c'est dans le réel le plus matérialiste des choses. C'est un type qui s'emploie à faire fonctionner la fabrique du rêve au sens premier. Donc c'est vraiment, Hollywood est une machine au sens concret qui fabrique du rêve pour les gens. Et lui est au cœur de ça, il doit faire fonctionner cette machine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est confronté au réel le plus concret. Et pourtant, sur quoi s'ouvre le film? Quel est le premier plan du film, la première séquence? On dit souvent, c'est notre critique, mais il faut souvent revenir au premier plan du film. Le premier plan du film, c'est Eddie Mannix dans un confessionnel. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que ce type qui est ancré dans le réel le plus concret, eh bien, il a une foi chrétienne. C'est-à-dire que c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que le type est effectivement l'instrument d'une industrie qui peut être tout à fait cynique, et pourtant, ce type a une spiritualité et une foi. Alors c'est assez marrant, parce que lui, il place sa foi et son degré moral, et on va dire, il place sa faute, il est persuadé d'avoir péché, parce qu'il a son plus grand péché, selon lui, est d'avoir caché à sa femme qu'il a recommencé à fumer, ou en tout cas qu'il ne parvient pas à s'arrêter de fumer, donc il fume en cachette. C'est d'autant plus ironique, évidemment, de la part des Coen, que par ailleurs, dans son boulot, ce type s'emploie à peu près tous les jours à masquer des avortements, à aller sauver la face d'acteurs qui trompent allègrement leurs épouses, à arranger les bidons par de la corruption, enfin voilà, qui est confronté systématiquement. C'est la petite main qui vraiment a les mains dans le cambouis. Et donc, dans le côté sordide. Et pourtant, il y a quelque chose chez lui de la croyance, qui relève de la croyance. Et c'est ça qui est assez fascinant et qui, pour moi, permet au film de sortir du simple pastiche et du simple côté gag. C'est qu'en fait, il y a un vrai sens. Et le sens, c'est quoi? C'est que, ben, je l'ai dit, ce type est l'outil d'une industrie purement capitaliste, puisque le but de l'industrie hollywoodienne, et c'est assumé dans le film, c'est de faire du profit. On vend du rêve aux gens par des productions absolument phénoménales et par des dimensions artistiques très poussées, par une réflexion culturelle poussée aussi, mais tout ça ne sert qu'à vendre du rêve. Et c'est là qu'évidemment il y a tout l'humour des Cohen et ce que toi t'as identifié comme du cynisme, mais qui à mon avis va plus loin, c'est qu'à l'intérieur de cette machine que Eddie Mannix est censé huiler et faire fonctionner, ben, il va évidemment y avoir un grain de sable, et le grain de sable c'est quoi? C'est l'assemblée des scénaristes communistes qui vont enlever la grande star du studio pour tenter de le convertir à leur philosophie, à lui faire voir la vérité, à savoir la réalité de cette industrie. Et c'est évidemment extrêmement marrant parce que on se rend compte à quel point cette assemblée, ben, c'est des braves types finalement. C'est pas du tout des... Ils sont totalement inoffensifs. Et leur champ d'action est hyper limité, c'est-à-dire qu'il y a une réplique absolument savoureuse lorsqu'ils expliquent à un clownet hébété, et par ailleurs en jupette, puisqu'il a été enlevé alors qu'il était sur le plateau, de ce grand drame où il joue un centurion romain, et donc il va se trimballer pendant tout le film dans cette petite jupette, totalement ridicule.
Avec son épée qui, évidemment, qui le gêne à chaque fois.
Qui le gêne à chaque fois qu'il tente de s'asseoir.
Beaucoup de running gag comme ça.
Ouais, tout à fait. Mais ils vont lui expliquer que, en fait, depuis quelques années, ils s'emploient dans leur scénario à placer une phrase par-ci, une phrase par-là, pour essayer de faire réfléchir l'audience. Et il y a une phrase tout à fait. Mais encore une fois, c'est en anglais, donc c'est difficile de le rendre en français. Mais où il dit, un des personnages lève un sourcil et dit avec un petit air satisfait, on a certainement réussi à changer quelques mentalités. Alors qu'en fait, évidemment, ces films sont vus par des millions et des millions de spectateurs, et eux, voilà, misent sur le fait qu'une réplique a peut-être fait réfléchir trois pelés et deux tondus au fond de la salle un samedi soir, quoi. Donc il y a vraiment cette représentation tout à fait comique, et ils vont parvenir par ailleurs à convaincre Baird Whitlock jusqu'à ce que celui-ci soit remis dans les mains d'Eddie Mannix, qui parvient à le récupérer, et lorsque Baird Whitlock
qui lui remonte les bretelles
de manière, ouais, exactement, en lui expliquant qu'il ça va bien 5 minutes, ces idéaux communistes, mais il est effectivement un rouage de la machine, et il a une chose à faire, c'est se taire, parce qu'il est particulièrement bien rémunéré, et maintenant, il peut aller retourner sur son plateau pour vendre du rêve aux gens.
Et être une star,
exactement. Mais c'est absolument savoureux, parce que ça confirme en ça le dialogue et la conviction de ces braves communistes, mais on voit bien que ça n'a aucune incidence sur l'industrie, qui est évidemment beaucoup plus forte que l'idéalisme de ces braves auteurs.
C'est pour ça que je faisais référence à cette séquence où lui, chez qui il est peut-être resté quelque chose de cette escapade avec ses nouveaux amis communistes, il arrive à toucher le public, y compris donc tous ces invisibles du monde du cinéma qui sont en train de le filmer, avant que l'industrie le rappelle à l'ordre et dise « cut ». On l'a refait parce que voilà, ici tout est faux, tout est artificiel, et notre but c'est de faire de l'argent, donc fais comme on te dit de faire.
C'est marrant, voilà, je l'ai pas vécu comme ça cette séquence, parce que je pense que là quand il la joue simplement parce qu'il est un bon acteur, et que, enfin voilà, je pense pas qu'à ce moment-là, parce que c'est après l'engueulade et le fait qu'il se fait remonter les bretelles par Eddie Mannix, je pense qu'à ce moment-là il est tout à fait redevenu la star qu'il était et qu'il a complètement oublié sa brève instruction communiste. Mais
écoute, je ne suis pas d'accord, parce que justement, moi, à ce moment-là, j'ai repensé à cette phrase où les scénaristes disaient « on a réussi à toucher quelques personnes ». Tu vois, il en reste quelque chose. Alors, il en reste quelque chose qui sera toujours écrasé par des Eddie Mannix et des personnes de ce genre, mais je pense qu'il en reste peut-être quelque chose, et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à les toucher.
Eh bien, c'est un bel idéal,
ça relève d'une interprétation.
Eh bien, c'est une interprétation qui voudrait donc dire que le cinéma des frères Cohen n'est donc pas totalement cynique, puisqu'il y a cet espoir à la fin. Mais je vais le confirmer d'ailleurs, cet espoir, parce que c'est par ça que je vais terminer sur le sens. C'est qu'on pourrait se dire effectivement que dans un réflexe purement cynique, c'est un regard purement amusé et cynique sur la question, si ça se terminait où on l'a dit, avec Eddie Mannix donc qui recadre son acteur principal, qui lui fait oublier ses rêves d'un instant pour le faire revenir à la réalité, sauf qu'il y a la trajectoire d'Eddie Mannix. Pendant que tout ça se passe, en fait, il est démarché par, effectivement, un capitaine d'industrie qui en fait veut l'amener dans un business autrement plus lucratif et sérieux comme il le présente. En
mais
fait,
c'est l'armée, non?
Enfin, non, en non, cas, non, c'est une compagnie militaire, non? C'est l'aviation civile, mais...
Est-ce que c'est civil? Parce que les cadeaux qu'il reçoit pour ses enfants, moi, ça m'a fait penser à des avions militaires.
Oh, ça peut, de toute façon, ça peut être les deux, mais en tout cas, c'est vraiment une industrie beaucoup plus lourde et
oui, bien sûr.
Officielle qu'Hollywood. Et d'ailleurs, celui qui tente de le débaucher se laisse aller en critiquant vertement Hollywood, en disant ça, c'est, tu vas quand même pas continuer toute ta vie à travailler dans ce cirque, puisqu'évidemment, mmh. Ça reste du domaine culturel. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport à la vraie industrie capitaliste? Pas grand-chose. Et donc, voilà. Tu t'es amusé maintenant, mais viens dans la cour des grands, quoi. C'est ça qu'il lui dit. Et donc, Eddie Mannix, pendant les quelques jours qu'on va le suivre, va être, voilà, il est tenté par c'est une très belle offre, et il va être tenté, sauf que en étant confronté à toutes ces difficultés, et ben finalement, qu'est-ce qu'il va faire à la fin du film? Tu l'as dit, donc on va le spoiler, mais effectivement, il va renoncer à la proposition et il va rester dans le domaine du cinéma. Qui lui pose tant de problèmes et qui le fatigue tellement et qui l'amène tellement à des actions tout à fait extrêmes. Et pourtant, il va décider de rester parce que lui aussi, il y a quelque chose du domaine de la croyance. C'est-à-dire que ça va au-delà de la seule industrie cynique qui rapporte de l'argent. Il est aussi vendu à la fabrique du rêve. C'est-à-dire qu'il a beau être conscient d'être un rouage de la machine et de toutes les sales besognes qu'il doit prendre en main pour faire fonctionner cette machine, ben mine de rien... Le cinéma, ça le fait rêver lui aussi. Et c'est en ça que le fait de passer par tous ces différents genres et ces différents plateaux, c'est le point de vue d'Eddie Mannix. C'est aussi, il y a un côté émerveillement. C'est-à-dire que quand on voit ce ballet aquatique, quand on voit la scène de comédie musicale de Channing Tatum, on voit toutes les ficelles, effectivement, parce qu'on voit le plateau qui est filmé et l'action qui est en train de se faire. Mais il y a quand même, de temps en temps, on est plongé en plein dans ces genres, en plein dans ces scènes, dans ces tableaux. Et tu l'as dit, il y a ce côté trop beau, il y a le côté performatif, il y a quand même ce domaine, le rêve apparaît. Et ben c'est le point de vue de Mannix. En fait, il a beau éprouver énormément de difficultés, il a beau courir après tout et essayer de cacher, d'arranger les bidons comme il peut, et c'est épuisant comme boulot, et ben mine de rien, il adore ce boulot, parce que le cinéma, c'est quand même, il y a quand même quelque chose du domaine du mystique, il y a quand même quelque chose du métaphysique, il y a du rêve là-dedans, et c'est en ça que le film n'est pas cynique. Parce que c'est un personnage purement un pur outil du capitaliste qui pourtant y trouve quand même, s'il était un pur capitaliste sans foi ni loi et qu'il ne croyait en rien comme un pur capitaliste, ben, l'affaire serait entendue, il choisirait forcément le contrat juteux de l'industrie de l'aviation. Mais non, il reste dans l'industrie du rêve parce qu'il y a quelque chose là de spirituel, en fait. Et c'est pour ça qu'on montre ce personnage avoir des doutes sur sa foi. C'est pour ça que c'est un film aussi sur la foi, la spiritualité et la religion. C'est ça, c'est ça qui permet de dépasser l'aspect purement cynique. Il y a vraiment une déclaration d'amour au cinéma aussi dans ce film des frères Cohen, qui pourrait n'être qu'une pantalonnade, qui pourrait n'être qu'un pastiche, mais il y a vraiment un discours aussi. C'est-à-dire, je pense que ce qu'ils disent à travers ce film, les Cohen, c'est on n'est pas dupes, on sait... ce qu'il y a derrière, hein, on connaît les coulisses, mais néanmoins, on rêve tous avec le cinéma, et c'est absolument magnifique. Donc voilà ce qui me plaît beaucoup dans le film et qui me le rend extrêmement attachant et tout à fait réjouissant, parce qu'au-delà de l'humour, il y en a beaucoup. Moi, j'adore toutes les scénettes, j'adore. Mention spéciale à George Clooney quand même, qui joue extraordinaire. Il joue un idiot, un abruti total. Et moi, j'adore ce que les Cohen ont raconté à son sujet, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le projet dans les tiroirs, ils ont eu le projet dans les tiroirs pendant plus de 10 ans, mais le projet ne tenait qu'à un pitch. Et en fait, ils ont eu le malheur, lorsqu'ils ont tourné le film Oh Brother avec Clooney justement, de lui dire « Ah ben oui, on a une idée, mais ça, c'est à peine un pitch, ça tient en une phrase. » C'est un acteur d'une grande fresque épique qui se fait kidnapper. Et on voudrait que tu joues le rôle. Et en fait, Clooney, depuis que les Cohen lui ont dit ça, n'a eu de cesse dans toutes les interviews, lorsqu'on lui posait la question, de dire « Ah ben mon prochain projet... je vais jouer un centurion romain qui va se faire enlever. » Et il l'annonçait à chaque fois, et les Cohen se sont dit au bout d'un moment, bon, il arrête pas de le dire en interview, faudrait quand même peut-être qu'on écrive un film. Et c'est comme ça que 10 ans après, ils ont fini par écrire ce film. Et ouais, toute la complicité et tout le... Moi, j'adore l'humour de George Clooney, qui est capable quand même d'une autodérision tout à fait réjouissante.
Mais ils sont plusieurs dans le film. C'est un très très bon acteur.
Ils sont plusieurs dans le film. Ralph Fiennes, extraordinaire.
Mais il y en a trop, il y en a trop.
Ouais, ouais, ils sont pleins, c'est ça. On peut tous les citer. Les communistes, ils sont géniaux.
Tilda Swinton qui est aussi géniale dedans, mais c'est des petits rôles à chaque fois.
Exactement.
Il y a ce sentiment de trop. Enfin, je dirais pas que je te rejoins sur ton analyse concernant Mannix. Je suis pas sûr que ce soit la même trajectoire, que ce soit le rêve qui le ramène à ça, mais j'entends et je trouve que c'est très intéressant. C'est pas du tout comme ça que je l'avais perçu. Mais au-delà de ce côté de trop plein dont je parlais, moi ce que je trouve cynique, bah, tu l'as dit en fait, c'est que le film nous dit à la fois on vend du rêve, mais on sait que c'est du bidon. Alors je résume très très grossièrement, mais c'est pour ça que je donne cette séquence de fin où Clooney arrive à toucher tous ces gens, et puis il y a le cut qui vient absolument tout casser. Pour moi, cette séquence-là, elle résume en fait le film et son propos, qui malheureusement reste dilué dans un amas de choses qui pour moi sont... Je comprends l'intention, mais ça reste trop. C'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. Il y a un côté too much qui fait que ce propos-là, déjà qui arrive très tard dans le film, en fait, même s'il y a du build-up avant, se trouve dilué dans quelque chose d'autre. Voilà, ça reste un film que, comme je dis, j'ai passé un bon moment à le regarder, mais ça restera pas le Cohen qui m'a le plus marqué.
Je comprends.
Un des Cohen qui m'a le plus marqué, c'est pas du tout un des plus connus non plus, donc voilà.
Je comprends, hein, c'est vraiment pas leur film majeur, mais je pense que c'est plus que le simple pastiche. Que tu as, par exemple, t'as cité Buster Scruggs, la balade de Buster Scruggs.
Attention, le côté pastiche, c'est une réflexion que je me suis faite
en
début de film. Mais une fois passé cette scène avec ce groupe de travail, entre guillemets, là, j'ai bien compris que le film essayait de me dire autre chose.
Oui, tout à fait. C'est simplement que la balade de Buster Scruggs, pour moi, est beaucoup plus mineure, dans le sens où, voilà, les Coen s'amusent, ils traitent un peu du genre, mais il y a, pour le coup, il n'y a vraiment rien derrière. Alors qu'ici, dans Ave César, je pense qu'il y a beaucoup plus de sens que ce que ça donne à voir au premier visionnage, où on se dit, voilà, film sympathique, mais voilà, effectivement, très chargé, très riche, beaucoup de références. En réalité, je crois qu'il y a un vrai parcours du personnage, une vraie réflexion. Parce que tu as dit « on vend du rêve, mais c'est bidon ». Moi, je crois qu'il y a une troisième partie à cette phrase. C'est « on vend du rêve, c'est bidon, mais il y a quand même quelque chose qui en reste et qui nous échappe à tous et qui fait la beauté de cet art-là ». Tu vois, je pense que c'est ça le...
Bah oui, bien sûr. C'est comme ce fameux mème. Hein. On est tous un petit peu prisonniers de ce système dans lequel on vit. Et donc, à moins de pouvoir sortir... 10 millions ou 20 millions, je crois qu'il a coûté 20 millions ce film, 20 millions de ta poche pour faire le film, tu reposes sur le système et il n'y a rien à faire, on le sait, les Coen le savent.
Oui, ils connaissent l'envers du décor.
Voilà, le fait de dire on le sait, c'est comme ça, moi je trouve qu'il y a quand même une part de cynisme, pas un cynisme malsain, pas un cynisme qu'on nous balance à la figure, justement, et ça c'est ce que j'apprécie chez les Coen, on nous le balance jamais à la figure, on nous dit juste on sait que c'est comme ça.
Ouais.
Et on hausse les épaules parce qu'on peut rien y faire.
Oui, tout à fait.
Mais ça reste cynique dans l'absolu. Pas forcément dans une volonté d'être cynique, mais ça reste cynique parce que c'est un triste constat malgré tout, même si on est bien content de rêver grâce au cinéma.
Oui, tout à fait. Moi, je reste plutôt sur justement la dernière partie, c'est-à-dire qu'il en reste justement quelque chose et on en rêve. Un dernier point pour parler de la dualité de Mannix, justement, et de cette contradiction vis-à-vis de sa foi. À quoi sert la séquence avec Scarlett Johansson, donc celle qui joue dans le ballet aquatique? Quel est l'enjeu de cette scène? En fait, le personnage de Scarlett Johansson se plaint auprès d'Eddie Mannix parce que justement, elle est en train de prendre des rondeurs parce qu'elle est enceinte, ce qui contrarie beaucoup le studio et Eddie Mannix puisque l'actrice représente aux yeux des spectateurs justement la pureté et que il serait quand même bien dommage qu'on apprenne qu'elle est enceinte, d'autant plus qu'elle n'est plus, elle n'est pas du tout en couple avec le père. Mais ça fonctionne évidemment en contradiction avec la foi d'Eddie Mannix. C'est un personnage chrétien qui a donc des valeurs chrétiennes. Et pourtant, dès lors qu'une situation vient poser problème au studio, il va mettre totalement sa foi de côté pour pouvoir régler le problème. Et comment est-ce qu'il va régler le problème? Il va trouver une entourloupe juridique pour que l'actrice s'absente quelque temps, le temps qu'elle donne naissance, pour que le public n'ait pas connaissance de ça. Et présenter ça au public, enfin, en gros, par un tour de passe-passe juridique, elle va confier son nouveau-né à un avocat qui, pendant quelques semaines, va le garder pour ensuite le récupérer comme si elle le...
Elle l'adoptait.
Et donc, ça fonctionne évidemment. C'est une valeur opposée totalement à sa chrétienté et au fait qu'il se pense bon chrétien, puisqu'il va se confesser. Il va beaucoup trop se confesser selon le prêtre qui l'accueille d'ailleurs. Mais c'est évidemment ça que ça met en lumière aussi. C'est cette, ces personnages troubles qui sont à la fois capables et totalement contradictoires, qui sont capables d'avoir, d'avoir une certaine spiritualité, mais de la mettre de côté quand c'est nécessaire. Donc voilà, personnage assez intéressant et plus profond que ce qui n'apparaît au premier abord.
Et Brolin qui est très bon, ça on a oublié de le mentionner, mais
ouais,
Brolin
est super, évidemment il est très bon. Il est chouette aussi parce que, c'est marrant, quelqu'un me disait récemment, ben, je vais revenir sur Babylone, mais que certains acteurs, notamment dans Babylone, ce qui pouvait gêner, c'est que certains acteurs n'étaient pas assez typés comme acteurs de l'époque, notamment Margot Robbie qui semblait éminemment... moderne dans son physique, enfin qui avait une physionomie et un physique de quelqu'un de moderne, et bien Brolin, il est tout à fait capable de passer pour un fixeur des années 50. Je trouve qu'il entre parfaitement là-dedans. Il a ce côté...
C'est pas le premier film de l'époque dans lequel il joue. Hein. Il a pas mal de films où on arrive vraiment à le situer. Mais... Alors il y a un film dont le titre m'échappe où il joue un mafieux.
Gangster Squad
Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est pas extraordinaire.
Non, c'est ce que j'allais dire, c'est pas extraordinaire, mais je veux dire, lui est crédible, quoi, dedans.
Ouais, tout à fait.
Et même chose dans No Country for Old Men. Enfin, il a une capacité à se métamorphoser qui est quand même assez bluffante, je trouve.
Absolument. Et même chose pour Ralph Fiennes, par exemple, c'est ce type d'acteur qui est tout à fait capable de jouer des personnages d'époque et des personnages contemporains. Donc, enfin, bon, voilà, ils sont tous vraiment très bien. Mais par exemple, tu vois, à ce sujet, Scarlett Johansson, elle fait quelque chose pour donner l'impression d'être une actrice d'époque. Elle, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle modifie sa voix, en fait. Elle prend une voix beaucoup plus pincée et élevée pour imiter le ton des actrices de l'époque.
Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est une actrice
que t'aimes
qui
pas trop.
M'agace. Ouais. mais qui est très bien dans son rôle. C'est pas seulement la voix, le timbre de voix qui change. Effectivement, elle prend une voix plus cassée, plus aiguë,
nasillarde,
mais elle change également son langage. Alors là, il faut voir le film en anglais, mais elle change son langage, elle l'adapte à un certain accent de l'époque, vraiment qui convient très bien à son personnage.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a de quoi dire, je pense, quand même, sur Ave César. Chouette film que moi j'aime vraiment beaucoup, que j'aime bien revoir. Mais voilà, ne pensez pas que c'est un simple pastiche ou une simple pantalonnade des Cohen. Il y a un peu de sens quand même derrière.
Non, il y a du sens. Il est juste trop dilué à mon goût, mais il y a du sens.
Eh bien, si tu veux un film qui traite plus ou moins du même sujet et qui soit un peu moins dilué, un peu plus sérieux, avec un peu plus de sens, n'hésite pas, cher Moussa, à te précipiter en salle pour voir Babylone de Damien Chazelle, excellent film par ailleurs.
Non, parce que justement, je préfère mille fois ce côté un petit peu... alors, je vais pas dire candide, c'est pas forcément candide, mais plus positif qu'on voit dans Ave César,
qu'à
la dimension sordide et malsaine qu'on a dans les films de Chazelle.
Mais il n'y a pas de malsain chez Chazelle, allons, qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre ? Regarde les
Donc,
films avant
de dire ça. Donc la semaine prochaine, François, je veux que tu regardes un film qui s'appelle Mean Creek, qui ne te dit probablement pas grand-chose.
Non, absolument pas.
Ça dépend parce que c'est un film de 2004, mais je pense que ce sera le film le moins cher qu'on aura chroniqué à ce jour. J'en dis pas plus parce que ce sera un élément que je relèverai brièvement la semaine prochaine. Mais donc Mean Creek de Jacob Estes, ne cherche même pas sa filmographie, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Ah ben c'est prometteur ça.
Avec un casting qui te dira peut-être quelque chose. Mais donc voilà, un film que j'ai hâte de chroniquer à tes côtés.
Ça va encore être un film d'ado ?
C'est un film avec des adolescentes.
Évidemment. Mais ça ne veut pas voir des films d'adultes, mais alors là, dès que pour la gaudriole, là, il y a du monde. Hein. Allez,
Ce sera le premier de cette dizaine, donc je vois vraiment
c'est
pas
vrai.
De quoi tu te
parles. Oui, il faut des quotas, c'est vrai, il faut des quotas. Allez, on prend son courage à deux mains et on attaque Mean Creek donc la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci Moussa d'avoir
Merci à toi.
D'avoir vu avec César. Et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Ouais, salut.